bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission. Notre invité du jeudi, dans quelques instants, nous allons être en compagnie de Nicole Saint-Cernin qui va nous présenter son livre « Entre République et Révolution industrielle en Haute-Loire au 19e et 20e siècle ». Voilà, on va voir un livre qu'elle a écrit avec son frère Jacques Hidard. On va découvrir ce livre aux éditions du Roure dans quelques instants.
Vivo mi vida sufriendo porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar.
Ave María, Lola.
Voilà, on va retrouver tout de suite Nicole Saint-Cernin. Donc, Nicole, bonjour.
Bonjour, Radio Craponne, merci de me recevoir.
Ah ben non, c'est avec un grand plaisir. Donc, vous avez écrit ce livre, en collaboration avec votre frère, Jacques Hidard, puisque vous, c'est votre nom de femme, Saint-Cernin, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Votre nom de jeune fille, c'est Darne.
C'est Darne, voilà. Tout à fait.
Alors, ça s'appelle « Entre République et Révolution industrielle en Haute-Loire, au 19e et 20e siècle ». Alors, ce que vous me disiez, c'est que pourquoi avoir écrit ce livre? Ben, pour plusieurs raisons. Pour découvrir un petit peu la Haute-Loire, ben, ce qui s'est passé, puisqu'on est passé un petit peu de l'agriculture, je dirais, pour certains, aux ouvriers, quand ils ont été s'embaucher à Saint-Étienne, à Lyon, un peu partout, on va le voir. Et donc, c'est à travers des correspondances des patrons, d'abord de l'usine de Faux de Pont-Salomon, l'usine de Faux qu'on entend toujours parler, puisqu'il y a une association, hein, toutes les années qui fait une fête. Les Dorian, les Holzer, les Jackson, les Binachon et les Martin, on va voir que certains, tous ont eu quand même un rôle, hein, c'est ça.
Voilà, c'est une histoire qui concerne la Haute-Loire dans sa partie industrielle, puisqu'au XIXe siècle, cette entreprise est née de petits ateliers qui fabriquaient déjà des faumes et qui a pris une énorme importance, puisque en quelques années, cette usine de faux de Pont-Salomon a fourni la moitié des faux utilisés en France, ce qui est énorme. Et elle a continué jusqu'en 1925 à peu près. Elle a continué un petit peu après à fournir des outils agricoles, mais en petit nombre, parce que les faucheux sont arrivés et la faux n'a plus été utilisée. Elle l'est encore, mais tout petit, et puis c'est difficile de s'en servir. Tout le monde le sait quand on a essayé. Alors, cette usine de faux, elle est née donc de petits ateliers qui existaient déjà à Pont-Salomon, à Saint-Didier-en-Velay, à Aurec. Il faut de l'eau, il faut une force motrice pour agir sur les marteaux qui tapent l'acier. Et un certain nombre de gens qui tournaient autour des faux, les Jackson à Saint-Étienne, les Dorian, hérités de la famille Holzer à Unieux-Firminy, ont décidé de réunir leurs moyens, au début avec Massenet, le père de notre compositeur si connu, pour créer une société et faire face à la concurrence. Et donc devenir plus gros et devenir plus puissant et peut-être aussi gagner davantage d'argent. Donc, cette entreprise s'est réunie et a créé une société. Alors, évidemment, une société avec des capitaux, il faut aussi quelqu'un qui tienne les manches. Alors, bien sûr, des ouvriers, les ouvriers qui ont été embauchés dans les campagnes autour, les agriculteurs qui vivaient de moins en moins bien et qui cherchaient des revenus, mais aussi un directeur suffisamment étoffé, suffisamment capable de gestion, et Dorian, notre Frédéric Dorian, dont on va parler assez longuement au cours de cet entretien. Eh bien, il a recruté Fleury Binachon, qui tenait une petite usine de faux à Firminy. C'était un gars, fils d'ouvrier, originaire de Rive-de-Gier, qui avait fait un petit peu d'études, qui était comptable, et qui a été recruté par Dorian. Ils ont réuni leurs capitaux et ils ont augmenté la taille de l'entreprise de Pont-Salomon. En quelques années, ils ont créé 7 sites sur 3 km le long de la Semaine. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller se promener le long de la Semaine parce que c'est un site industriel absolument extraordinaire dans son jus. Il y a même un musée de la faux passionnant que je vous invite à voir. Et il n'y a pas longtemps, il y a un film qui a été tourné dans les locaux, un film qui va sortir qui s'appelle Eiffel. Mais il n'est pas situé à Pont-Salomon. Ils se sont servis des décors de l'usine pour faire ce film. Voilà, revenons à mon livre, à notre livre, à mon frère et moi. Pourquoi on a choisi ça? Un peu le fait du hasard. Notre père était paysan à Rosières pendant la guerre, où Jacques Hidard est né d'ailleurs. Il est né à la maternité de Rosières, fermée depuis bien longtemps. Et moi, j'ai grandi à Firminy, où mon père était venu travailler dans les aciéries. Mon frère et moi, on a grandi au milieu des usines. Et on revenait bien sûr régulièrement en Haute-Loire. Et maintenant, j'habite d'ailleurs à Rosières depuis ma retraite. Alors pourquoi on s'est intéressé d'abord à la famille Holzer? Parce qu'on s'est rendu compte que dans cette famille, il y avait des personnages absolument extraordinaires qu'on avait méconnus, nous, quand on était enfants. Nous, on était du côté ouvrier, on n'était pas du côté des patrons et on ignorait tout ce qui se passait du côté des Holzer. Mais en lisant, en feuilletant des ouvrages historiques, etc., on s'est rendu compte que c'était des personnages qui avaient eu non seulement un rôle industriel, mais aussi un rôle politique. Frédéric Dorian a été un homme illustre, intéressant. Sa fille Aline a été aussi une femme passionnante, engagée dans la politique, engagée pour soutenir Dreyfus, pour aider elle a participé à la création de la Ligue internationale des droits de l'homme et de la Société des Nations, des gens d'une envergure très très forte. Ils ont eu des mandats aussi politiques, maire d'Unieu, hein, les Holzer d'Orient ont été successivement maires, et dans les registre des conseils municipaux, on voit à quel point ils ont été importants, notamment pour créer des écoles. Parce que, il faut dire d'abord que c'était une famille de protestants. Une famille de protestants pour qui l'éducation est très importante, la laïcité est très importante. Ils se sont battus contre le cléricalisme et le conservatisme religieux. Et ils ont fait donc beaucoup de choses à Unieux. Mais quand ils ont mis des sous pour l'usine de faux de Pont-Salomon, ils ont aussi fourni de l'acier, parce qu'il y avait de l'acier de bonne qualité à Unieux. Pourquoi? Parce que Holzer avait des ingénieurs très forts qu'il avait fait venir d'Alsace, un certain Brutschlein, par exemple, qui a habité, tenez-vous bien, dans le bâtiment qui est aujourd'hui le musée des Bruneaux à Firminy. Et je recommande à tout le monde, parce que peu de gens le connaissent, c'est un musée extraordinaire, un petit bijou, qui contient à la fois des données industrielles, mais aussi scolaires, mais aussi très pittoresques. Ils ont reconstitué une mine. C'est un musée passionnant. Allez-y. Donc, dans ce bâtiment habitait Brunstein, le fameux ingénieur de Holzer, avec un autre personnage très important dans la Loire, que tout le monde connaît parce qu'il a donné son nom à des rues, c'est Boussingault. Boussingault, c'était un chimiste, un très grand savant chimiste. Et elle a épousé Berthe Holzer. Berthe Holzer, c'était la fille de Jacob Holzer, le patron des usines d'Unieux. Et Jacob Holzer, qui était un type intelligent, a fourni à Boussingault un laboratoire de recherche industrielle, et c'est là qu'ils ont inventé l'acier chromé, qui était un acier exceptionnel en France et d'excellente qualité. Donc cette usine d'Unieux, maintenant elle est évidemment abandonnée, elle est devenue CAFL, puis Creusot-Loire, et puis maintenant peu de choses, il y a encore des vestiges, allez-y, bah, ça vaut le coup. Mais c'était une usine exceptionnelle dans son développement et dans ses capacités de progrès. Alors, Frédéric Dorian est le gendre de Jacob Holzer. Il a épousé, certains diront qu'il a fait un beau mariage, évidemment. C'était un monsieur qui venait de Montbéliard. C'était un protestant lui aussi, comme les Holzer. On se mariait dans la même communauté religieuse à l'époque. Et donc, ce Frédéric Dorian, lui, il avait été influencé par quelqu'un très important dans notre société. C'est un monsieur qui s'appelle Fourier. Fourier, c'était quelqu'un qui avait inventé, qui avait fait une utopie sociale en créant des phalanstères. Les phalanstères, c'était des espèces de maisons communautaires où tout le monde avait les mêmes droits, les mêmes capacités reconnues, où on fournissait beaucoup d'éducation, où on travaillait de manière pondérée et où on favorisait aussi le développement des personnes. Évidemment, c'était une utopie. Cette utopie n'a pas réussi, mais il y en avait de beaux restes. Et Frédéric Dorian, à travers Fourier et son successeur Victor Considérant, a été très influencé par ça. Et il a donné à l'usine de faux de Pont-Salomon une vision sociale qui n'est pas seulement paternaliste, qui est aussi fondée sur l'idée de progrès et de promotion des personnes. Alors si on se promène à Pont-Salomon, encore une fois, je vous invite à y aller, on retrouve un bâtiment d'habitation qui s'appelle la caserne. Alors c'est un mot un peu militaire, malheureusement, parce que c'est pas très joli comme nom, mais c'était les noms donnés à tous ces bâtiments dans l'ordre de Fourier. Il y en a une à Unieux d'ailleurs, un bâtiment comme ça, qui est encore habité, qui est une société HLM, et celui de Pont-Salomon aussi, encore habité. C'est un bâtiment en briques, avec une construction, une architecture tout à fait particulière, et dans ce bâtiment existait une école. Peu à peu, Dorian et l'entreprise de Faux et les autres, Jackson, ont mis de l'argent pour construire une école. Parce que, je le dis encore, l'éducation pour Fourier, pour les protestants, pour le mouvement de la Troisième République, l'éducation était très importante. Ça a donné lieu aux lois Ferry en 1882. Donc l'éducation et l'éducation des filles notamment. Les femmes dans cette famille ont tenu un rôle très important. Par exemple, la femme de Frédéric Dorian, Caroline Dorian, est quelqu'un qui s'est battue, qui était féministe avant l'heure et qui avait un rôle très actif. Elle n'était pas seulement aux cuisines. Elle s'est intéressée beaucoup à l'école et ils ont, par exemple, mis les instituteurs congrégationnistes dehors, les béates, etc., pour y mettre des enseignants laïcs. Ils ont créé une bibliothèque, c'était une bibliothèque de 750 volumes à Pont-Salomon. Mais aussi, ils ont créé une mutuelle, un service médical, une fanfare aussi, où les travailleurs allaient s'entraîner sur leur temps de travail, un cercle d'ouvriers, etc., une caisse d'épargne aussi. Tout est discutable, bien sûr, hein, sur le plan de la rentabilité, etc. Mais malgré tout, on se rend compte que d'autres industriels des parages, des usines textiles, de soie, etc., n'avaient pas du tout la même vision sociale des choses. Et même les Schneider au Creusot, qui étaient les parents un peu industriels de cette société, n'ont pas créé du tout les mêmes choses. Donc voilà ce qui nous a intéressés. Alors comment on est arrivé là ? Parce qu'on est allé se promener aux archives départementales de la Haute-Loire. Et là, aux archives départementales de la Haute-Loire, j'ai retrouvé une liasse de courriers écrites par les actionnaires et un certain nombre de gens qui tournaient autour de cette entreprise, des lettres qui étaient adressées à Fleury Binachon, le fameux directeur recruté par Dorian. Et ce Fleury Binachon, c'est un homme extrêmement intéressant, sérieux, très très soucieux, très investi dans son métier. Il a été conseiller général, maire de Pont-Salomon, et il s'est battu contre les cléricaux du coin, un certain Malartre notamment, pour réussir à être député, et il y est arrivé. Il a été député et il a défendu les libertés, la justice, l'éducation. Il a favorisé l'arrivée des chemins de fer dans la ligne Firmini, je ne sais pas dire exactement, mais dans ses coins, à toute la ligne Saint-Didier-en-Velay, etc. Tout ça, c'était des combats de députés à la Chambre pour pouvoir développer cette Haute-Loire qui était restée très agricole et un peu à l'écart du progrès de la nation. Et cette entreprise a un peu favorisé le développement de cette affaire. Il y a eu jusqu'à 400 ouvriers à Pont-Salomon.
Voilà, oui, alors c'est vrai que c'est très passionnant. Alors, vous parliez de Dorian. Je pense qu'il a... C'est sa place à Saint-Étienne, hein, la place Dorian. Ouais. Oui, donc c'est pour dire qu'ils ont marqué... Alors, vous disiez Jacob Holzer, d'origine juive sûrement, non ?
Alors, Jacob Holzer, non, il est protestant.
Ah oui,
comme je disais tout à l'heure,
non, comme ça c'est marrant, hein,
oui,
quand même.
C'était, il venait de Kligenthal dans l'Est.
D'accord.
Où il était déjà dans une forge qui périclitait, et il est venu à Saint-Étienne parce qu'il avait un de ses cousins qui travaillait à la manufacture d'armes, qui était contrôleur à la manufacture d'armes, et il est venu et il s'est installé dans la vallée de Cotaté.
Hein, oui.
D'abord à Saint-Étienne, à Terre-Noire, puis dans la vallée de Cotaté. Et ce sont des gens qui ont commencé avec peu de moyens, mais qui ont avait une vision industrielle des choses et une ambition. Et évidemment, quand c'est devenu trop petit, dans la vallée du Chambon-Feugerolles, je vous invite à y aller aussi, parce qu'il y a tout un périple historique qui a été créé par la Société d'histoire du Chambon-Feugerolles, et c'est passionnant. Et c'est une vallée un peu identique, encore un peu plus sinistre même, que celle de la semaine à Pont-Salomon. Et donc... il a quitté, il était avec son frère, donc Holzer, il a quitté ce lieu pour s'implanter à Unieux, là au vigneron, où il a créé une entreprise de grande taille. Hein, et l'arrivée des chemins de fer a favorisé évidemment les choses. Alors il fabriquait par exemple des cloches. Alors une anecdote, par exemple, Caroline Dorian, la femme de Frédéric, c'était une femme engagée. Hein, c'était des gens qui vivaient à moitié ici dans la Loire. Ils avaient un château à Fraisse qui est devenu une copropriété. Et ils habitaient aussi à Paris, puisque lui avait des activités politiques importantes à Paris. Et donc, cette Caroline, au moment de 1870, de la guerre de la France contre la Prusse, hein, menée par Bismarck, eh bien, il y a eu des grandes misères à Paris et des orphelins. Eh bien, Caroline Dorian a créé un orphelinat pour les enfants de cette triste affaire. Et cet orphelinat est devenu école primaire. Il est aujourd'hui un immense lycée qui est dans le 11e arrondissement à Paris. La rue porte son nom, le bistrot d'en face porte son nom, Dorian. La station de métro porte son nom, Dorian. Et donc ce grand lycée aujourd'hui contient encore une cloche pour l'appel, pour les sonner les heures. Cette cloche a été coulée à Unieux. Donc c'est vous dire que Dorian a marqué, et Caroline dans ce cas-là, a marqué son époque, quoi. Et c'est vrai que Dorian, peu de gens connaissent l'histoire de la place Dorian ou de la rue Dorian à Firminy. On connaît davantage Holzer à Unieux, mais sinon c'est une histoire qui s'éteint. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en reparler, parce que ce sont des gens qui ont compté pour notre société.
Ben oui, hein, puisque là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, hein, c'est ce qu'on dit. Donc oui, on se rappelle, vous avez parlé de la cave de Creusot-Loire, qui a été pendant des années, il y a des milliers d'ouvriers. Hein. Mais ce que vous disiez, peut-être un peu la différence pardon, avec d'autres industriels, c'est qu'ils ont eu ce côté social un peu. Que, voilà, il y a des ouvriers, il y a des patrons, mais c'est normal, hein, c'est, la société marche comme ça, hein, on le sait. Mais bon, quand même les ouvriers, ils tenaient compte de ce qu'ils leur disaient, je pense. Hein. Et puis le patron essayait de leur mettre eh bien, à disposition tout ce qui leur semblait bon, surtout de leur inculquer une culture qui soit pas, qui connaissent pas, qui soit simplement un ouvrier qui fait des pièces, voilà. C'est un peu ça l'idée, hein, des...
Exactement.
Ah, c'était ça, ouais,
tout l'idée. À fait. L'idée de la promotion du progrès, voilà. Quoi. Le progrès, pas seulement collectif, mais aussi le progrès individuel de chacun et donner les moyens à chacun. Bon, tout est relatif parce que les conditions de travail restaient dures, hein, dans ces ateliers.
Partout à l'époque, hein.
Alors, la fabrique de faux, c'est une fabrication très artisanale, hein, qui regroupe plein de métiers. Et tous les gens qui ont fauché savent à quel point le tranchant doit être parfait, sinon ça marche pas. Et donc, ces faux qui étaient de très bonne qualité, donc avaient été non seulement produites en France, il y avait toute une série de voyageurs de commerce dont on a retrouvé les courriers qui fonctionnaient dans toute l'Europe pour vendre les faux. En Italie, en Autriche, bien qu'il y ait aussi de la concurrence en Autriche, en Allemagne, etc. Ils avaient un catalogue énorme de plusieurs dizaines de faux différentes pour satisfaire tout le monde. Il y avait les faux, mais il y avait aussi les faucilles, il y avait les fourches. Aujourd'hui, subsiste une toute petite fabrique de fourches, Experton, et l'usine s'appelle l'Alliance, parce que l'Alliance, c'est le nom qui avait été donné à un des sites de l'entreprise. Et Alliance, c'est symbolique de quelque chose qui veut se réunir, quoi. Et ce site de l'entreprise a conservé encore aujourd'hui ce nom. Mais elle fabrique des fourches qu'on retrouve, je ne vais pas faire de publicité, maintenant, c'est un magasin de bricolage avec des parties bleues. Eh bien, ça vient en partie de Pont-Salomon, mais aussi de la région grenobloise. Voilà, donc il reste peu de choses. Mais à l'époque, la fabrique de faux, c'était un métier extraordinaire. Alors, le métier le plus abouti, on va dire, dans cette fabrique de faux, c'était ce qu'on appelait les platineurs. Et les platineurs, pour être un bon platineur, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de passer, de faire l'esquisse de la faux, c'est-à-dire passer de la barre d'acier à cette faux et à son tranchant, à cette lame, il fallait plusieurs années d'apprentissage. Et le platineur avait la possibilité d'embaucher des personnes pour l'aider. Et c'était à son compte à lui. Donc, on avait deux régimes un peu à l'intérieur de l'entreprise. Le platineur, voilà, alors il embauchait aussi, malheureusement, des enfants, hein, pour verser de l'eau. Il y a eu des articles dans l'Histoire sociale de la Haute-Loire où on parle du travail des enfants, notamment à Pont-Salomon. Évidemment, ça existait. Il y en avait quelques-uns. qui actionnait les roues, qui mettait de l'eau, etc. Il fallait la verser à un certain rythme. Et puis, il y avait tout un tas d'autres métiers qui sont tout à fait extraordinaires. Des bleuisseurs, par exemple, des aiguiseurs, des, je ne sais plus exactement tous ces noms. Mais si vous allez au musée de la Foux, on vous racontera ça. Et on, même, on va actionner une des roues à cam qui permet d'actionner ce fameux marteau qui tape sur la lame, hein, et dans cet atelier qu'on appelait un martinet, hein, où ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de chaleur, parce qu'il fallait chauffer la lame. Donc, c'était des conditions quand même dures. Mais implanté à la campagne, c'était peut-être moins sinistre que dans les vallées du Gier, sombres, tristes, surpeuplées. Hein, on était peut-être un petit peu mieux à Pont-Salomon, je ne sais pas.
Oui, ben on parle de la décentralisation, hein, on était en plein dedans, là, hein, parce que c'est vrai que tout mettre dans les grandes villes. Oui, donc c'est cette histoire de la Foux, c'est vrai qu'on vous disait, ben, dans le temps, il n'y avait pas ce qu'on voit maintenant, les grosses faucheuses, hein, qui, donc ça faisait tout un, et oui, c'est vrai que c'était très particulier. Faucher, c'est pas si évident que ça. Ceux qui n'ont jamais essayé, vous verrez que c'est très difficile. Et puis surtout, enfin, moi, je sais pas faire, hein, je peux vous le dire, mais j'avais des amis, parfois, qui venaient, comme ça, ou des gens qui venaient faucher l'herbe. Et alors, il fallait battre la faux, hein, c'était ça. Hein.
Tout à fait.
Et chez Canac, qui était très pointu. Hein, il leur fallait une pierre comme ça, il fallait. Alors, bien sûr que ça a disparu maintenant, mais parce que, bon, la vie n'est plus la même. À la campagne, il y avait beaucoup de monde. Bon, maintenant, puis ça a changé, ça a grossi. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y avait des gens déjà qui avaient réussi, quoi, on peut le dire. Alors, bien sûr, après, tout s'est arrêté dès qu'on est arrivé à la mécanisation.
Voilà, dès qu'on est arrivé à la mécanisation, et puis cette entreprise qui avait été gérée, donc co-gérée, on va dire, par Fleury Binachon et Dorian, et les Jackson, je vais en dire un mot aussi quand même, parce que les Jackson, c'est une famille protestante aussi, d'anglais. Et ces anglais sont arrivés au début du 19e siècle. Jackson avait été appelé par le gouvernement français, Chaptal, pour venir en France et fabriquer de l'acier aussi bien que les Anglais. Les Anglais étaient en avance sur nous en matière de révolution industrielle et de fabrication de l'acier. Et donc, il a proposé une somme d'argent à un Anglais qui a bien voulu venir pour fabriquer de l'acier. Et ce monsieur s'appelait Jackson. Jackson, il est arrivé avec femme et enfants à Terre-Noire, hein, 9 enfants. Et un an après, sa femme est morte. Il s'est retrouvé seul avec ses gosses. Et surtout, l'argent promis par la France a été long à arriver. Et du coup, il a vécu une période de grande misère, de grandes difficultés. C'est un gars aussi absolument incroyable parce qu'il s'est relevé de toutes ces difficultés. Et il a fait fortune, hein, au cours des années, pas lui-même, parce qu'il n'est pas venu très vieux malheureusement, mais ses fils, les deux fils Jackson, qui ont créé une grande entreprise à Assailly, à côté de Rive-de-Gier, et ils étaient aussi actionnaires de l'usine de Faux, et ils fournissaient l'acier, 50-50, d'un côté les Holzer, de l'autre côté les Jackson. Ils fournissaient l'acier, et ils se sont entendus, les Jackson, les Dorian, et les autres concurrents en France de fabrication de la Faux, pour des ententes sur les prix, ce qui est aujourd'hui parfaitement illégal, mais c'est ce qui se faisait à l'époque. Et c'est grâce à cette entente sur les prix, grâce aussi à leur capacité à joindre des gens sur le plan national, de la commission, parce que leur mandat leur permettait aussi d'être proche de ces gens-là, ont réussi à aboutir à des ententes sur les prix. Et les Jackson étaient des hommes d'affaires, hein, des gens très malins, et ils y sont bien arrivés. Alors, pour faire un peu de tourisme, encore une fois, je vous invite à aller à Lorette, dans la vallée du Gier. Il y a une très, très belle sculpture faite en acier, où on voit quelques personnages qui coulent de l'acier. Et à côté, vous avez justement une sculpture qui représente les visages des Jackson pour leur rendre hommage, parce qu'ils ont été pour beaucoup dans l'essor industriel de cette région. Donc les Jackson ont aussi écrit à Binachon, et ce sont des courriers qu'on a retrouvés. Donc évidemment, dans ces courriers, ben, ils discutent avec Binachon, ils discutent du prix, ils discutent des conditions de travail, ils discutent des mauvaises années aussi où il n'y a pas d'eau, marteaux, par exemple, dans la semaine, parce que les marteaux peuvent plus taper s'il n'y a pas d'eau. S'il y en a trop, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, des aléas. Un autre personnage aussi très important dont je n'ai pas parlé, c'est Frédéric Dorion, donc, qui a été ministre en 1870 et qui a été... ministre du gouvernement provisoire, qui a lutté contre l'Empire, hein, lutté pour la République, l'avènement de la Troisième République, qui a eu du mal à se mettre en place, la République pour lutter contre l'archaïsme et le conservatisme de l'Empire. Donc Dorion a été un des acteurs principaux de cette bataille. Gambetta, par exemple, Clémenceau étaient de ses amis, sont eux qui ont fait l'éloge funèbre de Frédéric Dorion, qui est enterré au Père Lachaise à Paris. Et quand il est mort, sa fille, Aline, a épousé un certain Paul Ménard. Paul Ménard, c'était aussi un gars de gauche qui venait du Midi, mais qui était aussi élu de la République, député, et qui s'est battu à la fois pour gérer l'usine de Firminy et aussi celle de Pont-Salomon. Et Paul Ménard, il se faisait appeler Paul Ménard Dorion, parce qu'il était très admiratif de son beau-père, et Aline Dorion ont tenu à Paris ce qu'on appelait autrefois un salon. Et on dit que Marcel Proust s'est inspiré de leur salon pour parler du salon de Madame Verdurin. Mais c'était un salon de gauche, où venaient les socialistes, où venaient les Dreyfusards, où venait Victor Hugo. Et Victor Hugo, son petit-fils, a épousé une petite fille de Frédéric Dorion, hein, Dora Dorion. Et c'est pour ça que Victor Hugo a offert à Caroline Dorion un portrait de lui-même. Et il écrit sous ce portrait, qui est au musée des Bruneaux à Firminy, à Madame Dorion et à son vaillant époux. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande proximité donc, entre la famille Hugo et la famille Dorion. Mais il y avait aussi proximité avec des artistes, des peintres, des poètes, etc. Voilà, encore un personnage, si j'ai le temps.
Alors, attendez, on va faire une petite pause, parce qu'il faut que vous repreniez un peu. C'est que vous êtes, vous aviez peur, vous êtes... ça va très bien, vous savez beaucoup de choses. Alors, j'ai choisi de vous faire écouter quand même. Ça va bien avec ce que vous nous racontez, puisque c'est Bernard Lavilliers, donc, qui est Stéphanois, et qui, lui, a travaillé dans les usines comme ça avant de devenir chanteur. Et bien sûr, il a fait une chanson qui s'appelle tout simplement Saint-Étienne. Donc, on va écouter Bernard Lavilliers, Saint-Étienne. Nous sommes en compagnie de Nicole Saint-Cernin, qui est en train de nous parler de son livre qu'elle a fait en compagnie de Jacques Hidard, entre République et Révolution industrielle, en...
C'est quand même ici que pousse à tout petit cette fleur de grisou à tige de métal. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La langue du gardien rigole de mon style.
Voilà, Bernard Lavilliers, Saint-Étienne. Et oui, notre Saint-Étienne, hein, c'est quelque chose, Saint-Étienne. Pour moi, j'avais toutes mes études à Saint-Étienne. Alors. Et les Stéphanois. Bon, alors là, on en parle un petit peu avec Nicole Saint-Cernin, puisque elle a écrit Steve en compagnie de son frère Jacques Hidard, l'entrée publique et révolution industrielle en Haute-Loire au 19e et 20e siècle. Alors, on a parlé des Dorian, des Holzer, des Jackson, des Binachon et des Martin. Et on s'est rendu compte quand même qu'après, il y avait une certaine... On se marie un peu entre familles, hein. On l'a compris,
oui,
un petit peu.
C'était une
Mais c'était un peu logique.
C'était une famille protestants à l'époque. Ils se connaissaient, c'était des cercles d'amis aussi, et des cercles d'affaires, évidemment. Hein. Frédéric Dorian a financé la chaire du temple à Saint-Étienne. Et ils sont... Évidemment, il y a eu des épousailles, il y a eu des liens, des alliances à l'intérieur de cette famille. Binachon, lui, n'était pas protestant, hein, le directeur de l'usine de faute Pont-Salomon, mais anticlérical. Anticlérical, non pas pour lutter contre l'Église, mais contre le conservatisme, contre les stéréotypes, contre les préjugés de l'Église, et pour l'évolution, pour le progrès, pour l'éducation pour tous. Alors, je voudrais parler d'un autre personnage qui n'est pas directement lié à l'usine de faux de Pont-Salomon, puisqu'il n'y a vraiment pas, vraiment jamais travaillé, mais c'est un monsieur qui s'appelle Charles Dorian. Charles Dorian a été le fils, un des fils, donc, de Frédéric Dorian et Caroline Holzer. Et ce fils, Charles, a donné du fil à retordre à la famille parce qu'il s'est émancipé à sa manière. Il est allé épouser une princesse russe de 10 ans de plus que lui et il est allé s'établir en Italie, vivant un peu de ses rentes ou on ne sait pas trop quoi. Et cette princesse russe, évidemment, qui n'était elle pas protestante, n'était pas du bon goût de la famille. Donc Charles n'était pas très apprécié, puis on aurait aimé le voir, comme ses frères, faire des études à l'école des mines à Saint-Étienne, parce que l'école des mines a été pour beaucoup dans l'évolution de la société industrielle stéphanoise et autour. Et ce Charles, il n'a pas voulu. Mais Charles, il était poète, il était fantaisiste, mais il a participé à quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est l'expédition Fourreau-Lamy en 1898. C'était une grande expédition française, les élèves se rappellent peut-être de cette expédition. Il s'agissait d'explorer le Sahara pendant 2 ans pour en faire une cartographie et pour éviter aussi que les Touaregs prennent le Tchad, etc. Donc ça a été une expédition qui a duré 2 ans et qui a été très difficile, hein, parce que dans des contrées hostiles avec beaucoup de révoltes aussi des habitants. Et donc Charles Dorian s'est illustré, on a trouvé des textes disant que c'était un homme exceptionnel. Et Charles Dorian, eh bien, il avait été élu à la mairie de Feur quelques temps avant, mais il est parti quand même. Et il a déserté son poste parce qu'il n'était pas fait pour ce genre d'opération. Et j'ai retrouvé dans les archives municipales de Feur, justement, l'absence de Charles Dorian pendant 2 ans. Et ils sont habitués à cette histoire. Alors, cette princesse russe, était une femme exceptionnelle. Elle était très amie de Victor Hugo parce que c'était une littéraire. Elle a publié énormément de théâtre, de poèmes. Et elle a écrit, par exemple, un très joli poème qui est dans le livre lors de la naissance de sa fille. Et c'était une femme de lettres. Donc, c'est pour dire que les accointances de ce milieu avec aussi un autre personnage qui est Émile Zola. Émile Zola est venu à Unieux, est venu à Fraisse, et il a écrit son dernier livre, un de ses derniers livres, qui est difficile à trouver, mais qu'on peut acheter quand même, qui s'appelle « Travail ». Et ce livre raconte la vie dans les industries dans sa première partie, et il raconte notamment un mariage à l'intérieur de cette entreprise fictive, mais très influencée par celle du Nieu. Et j'ai retrouvé, moi, un texte d'un historien local qui racontait le mariage de Jules Holzer qui avait eu lieu dans les halles de l'industrie, dans les bâtiments de l'industrie. Et Zola raconte dans son livre Travail un mariage et c'est copie conforme à ce que Jules Holzer a vécu là. Donc c'est très saisissant de voir que ce Zola a eu une place importante, a été inspiré aussi dans ses livres. La deuxième partie de son livre, à Zola, porte justement sur l'utopie sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fourriérisme qui n'a pas pu se mettre en place tel qu'il a été défini par son auteur dans tous ses termes, mais qui a donc bien influencé la famille d'Orient. Voilà donc toute une série de personnages comme ça qui se sont tissés autour de ces familles. Alors Fleury Binachon, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que c'est un besogneux, Fleury Binachon. Il habite sur place, dans un bâtiment à côté des usines. Et il a un fils qui va prendre sa succession, Johannes Binachon, et qui va être aussi le continuateur de l'œuvre de son père. Et c'est son gendre, un certain Martin, qui va après prendre sa suite. Un Martin qui est originaire du Puy. Le père était architecte, le frère directeur de l'Institut Pasteur de Paris, et un autre grand économiste et ministre des Finances. Donc une grande famille aussi du côté des Martins, ça vaudrait le coup de rechercher de leur côté. Mais donc toute une histoire aussi beaucoup plus... moins ambitieuse, on va dire, que les Dorian, par exemple, mais Binachon s'est battu. Et il s'est battu corps et âme contre son fameux adversaire politique qui était Malartre. Et Dorian l'encourageait. Et Caroline Dorian aussi lui écrivait en disant « Mais vous devez être fier d'être combattu par des cléricaux, parce que ça veut dire donc que vous êtes quelqu'un qui va vers le progrès, vers l'ouverture, et vers la liberté, et non pas vers le passé, vers le conservatisme, aller vers le mouvement, quoi. Et donc ce Binachon a emprunté cette affaire-là et il s'est battu. Et il y a un courrier qui est dans le livre justement où il écrit toute cette bataille avec Malartre, et c'est assez saisissant parce que notre époque n'a rien à envier à cette époque-là. Le fameux Malartre avait des attitudes un peu contestables dans la manière de lutter contre son adversaire.
Ouais, mais Binachon savait lui répondre. Jamais très propre.
Mais c'est très intéressant aussi de voir comment les idées peuvent percer comme à travers des hommes un peu exceptionnels, quoi, qui ont non seulement des idées, mais aussi du charisme, la volonté, la générosité, quoi, hein, de s'y mettre et de combattre. Et ça, c'est assez touchant. Voilà.
Donc ça, c'était Martin.
Voilà, Binachon, Johannes Binachon et, ouais. Et Martin, son successeur.
Ouais. Ben, on voit que bon, il y a beaucoup de choses dans ce livre, je crois, à découvrir, tout ce que vous nous avez raconté. Alors, ce livre, on le trouve un peu partout dans toutes les...
Alors, il a été publié par M. Chanon aux éditions du Chanon, Rour, ouais. Aux éditions du Rour au Puy, ouais. Donc on peut toujours l'appeler et puis il vous l'envoie. On peut le trouver dans un certain nombre de librairies, hein, à Saint-Étienne, à Firminy, à l'Hirondaine, on peut le trouver au Puy, on peut le trouver à Rosières, à Retournac, à Intermarché.
Et je pense à Craponne.
Et voilà, on peut le trouver un petit peu partout. Et puis, si vous ne l'avez pas, appelez donc les éditions du Rour. Monsieur Chanon se fera un plaisir de vous l'envoyer. Et puis, on va essayer avec Monsieur Chanon de participer à quelques salons du livre qui vont essayer de subsister.
Et oui, parce que cette année, voilà. on a raté Livre Évasion. Hein, donc.
Voilà, oui. Donc on va essayer d'aller à Suril-Comtal, à Point, et puis peut-être à Saint-Étienne si le virus ne produit pas toujours ses dégâts et qu'on pourra se réunir et parler de ce livre. Voilà.
Alors, vous me disiez que vous faisiez des biographies pour des gens, hein, puisque ça, mais c'était
oui,
un
ailleurs.
Peu votre côté par ailleurs.
Oui.
Mais est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin peut-être dans la recherche ou de parler d'une autre histoire, là?
Alors, on a plein d'idées, parce que, bon, ça nous intéresse, la Haute-Loire. On a plein d'idées, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Et puis, bon, moi, je ne suis pas historienne de formation. Hein. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir à travailler sur les archives départementales, parce que c'est rigolo de découvrir, au fond, des cartons bien poussiéreux, bien sales, ouais. Des gros cartons, de découvrir tout à coup ces courriers que j'ai ouverts l'un après l'autre, ouais. Et réécrits, parce qu'ils étaient manuscrits, parfois, certains. certains difficiles à déchiffrer, mais c'est très amusant de découvrir ça. C'est un petit peu comme de l'archéologie quand on cherche des petits bouts de quelque chose avec une cuillère. Hein. Là, c'était un petit peu ce plaisir-là et le plaisir de découvrir et d'en faire quelque chose. Et puis de le faire avec mon frère, hein, qui était, lui, beaucoup plus féru en histoire que moi, qui a été un homme politique aussi. Donc, c'est pour ça qu'il s'intéressait aux gens qui ont aussi sont investis dans la vie politique. Et donc, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça en collaboration tous les deux. Et on a d'autres projets, oui. Mais pour le moment, rien n'est bien défini. Et je ne peux pas vous livrer le secret de notre prochaine publication.
On ne vous demande pas. Hein. Non, mais souvent, les gens comme ça qu'on reçoit, les écrivains... Bon, ils écrivent à lui, mais derrière, ils ont déjà un autre projet parce que.
Ouais, oui, et ça, c'est notre souvent, plaisir hein. de la retraite aussi.
C'est le plaisir de la retraite, voilà.
Ah, oh, ben oui, parce que.
On s'occupe.
Oui. On s'occupe et puis on développe aussi des liens. Ben, le fait de venir vous voir aujourd'hui, oui. voilà, par exemple. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir discuter. Par exemple, j'ai retrouvé des descendants de la famille Jackson qui m'ont appelé.
Ah, d'accord.
Et ça, c'est très intéressant aussi de voir que cette histoire, elle est encore vivante à travers ces descendants. D'une certaine manière, et puis surtout parce que c'est une histoire qui m'a marqué moi personnellement de par ma double appartenance Loire-Haute-Loire et doublement avec mon frère, et du coup c'est une espèce de, je sais pas, mais de, pas de dette non que j'avais, mais de plaisir à raconter quelque chose qui m'est personnel mais qui appartient à la vie collective.
Oui, c'est intéressant, puisque votre papa était agriculteur. Et puis après, ben, il est parti, comme beaucoup, hein, parce que je crois qu'il y aurait une histoire à écrire là-dessus, comme beaucoup sont partis, parce qu'après, c'était difficile à la campagne quand même. Puis l'attirance un peu de la ville, hein, peut-être, pour gagner un petit peu plus d'argent.
Ben, mon père a dû quitter la campagne parce que il était sur une ferme qui a été prise par ses frères, qui avaient été prisonniers pendant la guerre. Et quand ils sont revenus, eh bien, mon père leur a laissé sa place parce que c'était tout à fait logique et normal. Et du coup, il est allé s'embaucher à Firminy, dans les aciéries. Et il a travaillé toute sa vie au traitement thermique au pied de la grande cheminée qu'on voit encore quand on traverse Firminy. En espérant que cette cheminée sera conservée comme patrimoine industriel.
Oh, mais sûrement, parce que maintenant, on y fait très attention. Hein. On ne démolit plus comme ça.
Voilà. Donc, voilà. Puis la Haute-Loire, parce que maintenant, j'y vis et que j'y suis heureuse.
Eh bien, c'est bien. Voilà. Donc, on recevait aujourd'hui, dans cet invité de jeudi, Nicole Saint-Cernin. Alors, c'est un joli nom, hein, Saint-Cernin. Hein. C'est originaire d'où, ça, c'est
Toulouse.
Ah, des Toulousains. D'accord. Jacques Darne, son frère, hein, ils ont fait ce livre. Entre République et Révolution industrielle en Haute-Loire au 19e et 20e siècle, vous le trouverez aux éditions du Roure et puis, comme on dit couramment, dans toutes les bonnes librairies. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Bien, Nicole, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, j'ai passé un excellent moment, toujours. Et j'ai appris beaucoup de choses.
Bon, écoutez, j'en suis très heureuse. Moi, les connaissances que j'ai ne sont pas toujours très, très précises. Mais en tout cas, c'est le fruit de toutes ces recherches. Quoi.
Ben, j'ai découvert pourquoi on appelait la place d'Orient, qui est une place centrale à Saint-Étienne. Hein, autour de la place d'Orient, on y a beaucoup été. Hein. Et ben, je ne savais pas qui était Monsieur Dorian. Eh bien, je l'ai appris aujourd'hui.
Merci de votre accueil.
Merci beaucoup.